bonjour et merci d'écouter ou de regarder Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Questions politiques avec l'équipe Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Solène de Royer du journal Le Monde. Bonjour Solène.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Et une émission au lendemain de manifestations partout en France contre le racisme et les violences policières. Et à quelques heures de l'allocution solennelle du président de la République, vous l'entendiez dans le flash, ce sera ce soir à 20h un discours très attendu, en tout cas qui viendra après un long, très long silence d'Emmanuel Macron. Et un moment politique électrique avec des polémiques, des débats enflammés. Comment comprendre qu'à peine sorti de la crise sanitaire, ce n'est pas ce qui rassemble, mais ce qui divise, qui semble dominer l'espace public. La semaine prochaine sera sans doute, peut-être, plus consensuelle avec jeudi prochain les commémorations des 80 ans de l'appel du 18 juin. Et la passion de Gaulle semble très largement partagée, toute sensibilité politique confondue. On va en parler avec notre invité, l'eurodéputé Rassemblement National. Il est coprésident du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Nicole Ebahé s'est installée avec nous en studio et pour intervenir, le hashtag Question Paul ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Nicolas Bay.
Bonjour.
Et bienvenue. On va commencer d'abord par ce qui faisait l'événement hier, à savoir cette nouvelle manifestation, ces rassemblements contre le racisme et les violences policières. On en a tous vu des images. Qu'est-ce que vous en retenez ?
Ce que j'en retiens, c'est qu'à chaque fois, on a le prétexte officiel qui est une manifestation contre les violences policières qui aboutit en pratique à des violences contre les policiers. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu une manifestation qui s'est terminée de la même manière quelques jours avant. Et on voit bien que derrière tout ça, il y a une volonté pour certains, une toute petite minorité d'ailleurs, d'exprimer sa haine de la France, sa haine de l'ordre républicain et de remettre en cause finalement la cohésion et l'unité nationale.
C'est ce que vous en avez retenu hier ?
Oui.
Bah, la haine de la France ?
Bah, vous avez vu les violences inouïes dont les policiers ont fait l'objet ? Vous avez vu un certain nombre de slogans qu'on a entendus dans cette manifestation, un certain nombre de pancartes où ouvertement c'était une démarche racialiste en réalité.
Expliquez-nous.
Bah, écoutez, on voit des personnes qui veulent culpabiliser la France, culpabiliser les Français, pour leur passé, pour des faits finalement dont que nous n'avons pas commis.
On va en parler parce que c'est intéressant le rapport au passé.
Et que eux-mêmes, ils n'ont pas subi. Voilà, donc on voit bien qu'on essaye d'installer une sorte de responsabilité collective, ce qui est une régression absolument majeure, puisque dans nos valeurs de civilisation, dans nos lois de la République, dans notre état de droit en France, eh bien c'est la liberté et donc la responsabilité individuelle qui doit prévaloir.
On va en parler évidemment, Nicolas Bay.
Est-ce que ça veut dire que vous Nathalie ne comprenez Saint-Cricq. Pas qu'il puisse y avoir un malaise et que cette manifestation représente ce malaise en France, oui. Avec un certain nombre, je ne dis pas que la police est raciste, je dis qu'un certain nombre de choses ont été découvertes. Donc il y a une justification à ce rassemblement qui a eu lieu hier.
De quoi parle-t-on ? On a un événement dramatique qui a eu lieu aux États-Unis, à 6000 km de là, la mort de George Floyd, qui est utilisé par la famille Traoré, je devrais dire le gang Traoré, c'est une famille de délinquants, qui essaye de culpabiliser les Français et d'installer l'idée que la police se livrerait à des comportements racistes en France.
C'est surtout une sœur qui a perdu son frère et qui demande justice ou tout simplement de connaître la vérité sur les circonstances de sa mort.
Il y a eu une expertise judiciaire, elle la conteste et c'est son droit d'ailleurs, personne ne lui conteste cette possibilité, mais à ce stade, ce qu'on voit simplement, c'est que jamais Adama Traoré n'a été interpellé en raison de sa couleur de peau. Il a été, en réalité, les gendarmes procédaient à l'interpellation de son frère, lui-même délinquant, et lorsque les gendarmes sont arrivés, dont deux étaient antillais, au passage, eh bien, Adama Traoré s'est enfui.
Antillais, c'est
donc,
pas français?
Et donc, l'interpellation a eu lieu, mais sûr que si, que c'est français, mais je veux dire par là, c'est qu'ils étaient sans doute noirs de peau, et donc on peut difficilement les accuser
après,
de racisme.
4 ans après, bon, cette famille demande toujours, et la justice et la vérité.
Adama Traoré a fui, et donc, il a été interpellé pour cette raison-là, parce qu'il a fui. Et effectivement, ça a été dramatique. Et aujourd'hui, on peut pas dire précisément qui est responsable, mais enfin, l'enquête judiciaire.
Le reste qu'il est mort.
L'enquête judiciaire a exonéré de toute responsabilité les gendarmes qui ont procédé à l'interpellation. Cet événement, certes tragique. Hein, moi, je comprends évidemment. On appréhende ça avec humanité, mais c'est cet événement qui remonte à il y a 4 ans quand même. Hein, ça montre qu'il n'y a pas des prétendues violences policières. Il y en a quand même pas tous les jours. Hein, qui a servi de point de départ à l'expression beaucoup plus large d'une remise en cause de la police avec, et c'est dramatique, celui qui est censé à la fois diriger, défendre et protéger la police, M. Castaner, ministre de l'Intérieur, qui a abandonné les policiers en race campagne.
On en parlera de Castaner, Karine. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a un certain nombre de policiers, je ne sais pas combien, qui dérapent et donc qu'il faut sanctionner?
Mais s'il y en a, eh bien, ils doivent être sanctionnés, et ils le sont d'ailleurs. Mais moi, je refuse l'idée, qui n'est d'ailleurs pas argumentée, pas chiffrée, selon laquelle il y aurait un problème majeur de racisme dans la police.
Ça veut dire que les statistiques ethniques doivent être, juste au passage, parce que vous dites pas chiffrées, pas documentées, est-ce qu'il y a eu un débat? Si Beth Ndiaye, dans les colonnes du Monde hier, s'est déclaré favorable aux statistiques ethniques pour qu'enfin on sache où on en est, et si c'est justifié ou non, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
Écoutez, au Rassemblement national, on a toujours été opposé à l'idée de statistiques ethniques parce que finalement, ça aboutirait à analyser les événements, la sociologie, sous un prisme exclusivement ethnique ou racial, ce qui est quand même assez réducteur et constitue même une régression. Maintenant, on voit bien l'idée qui est derrière. L'idée qui est derrière, c'est de dire, en faisant des statistiques ethniques, on pourrait prouver, c'est l'esprit dans lequel la porte-parole du gouvernement le disait, on pourrait prouver qu'il y a ou qu'il y aurait des discriminations, par exemple pour l'accès au logement, par exemple pour l'accès à l'emploi. Moi, je suis pas sûr du tout que ce soit vrai, mais je le dis surtout.
Vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai?
Non, je suis pas sûr que ce soit vrai. Et surtout, je les mets en garde. Je pense qu'ils sont très imprudents. Parce que si on rentre là-dedans, on va faire des statistiques ethniques sur les bénéficiaires d'allocations familiales ou d'allocations sociales. On va faire des statistiques ethniques, comme c'est le cas aux États-Unis, sur la délinquance et sur la criminalité. Et donc, je suis pas sûr.
Et ça permettra d'avoir des faits au lieu de parler de choses sans en avoir aucune connaissance.
Mais je pense que ça
permettra à Nicolas Bay de mesurer les parcours de discrimination, en tout cas.
De mettre en évidence un certain nombre de choses, comme par exemple le lien qui est évident, qu'il suffit d'aller visiter une prison pour s'en rendre compte, le lien évident entre l'immigration et l'insécurité, par exemple.
Je ne sais pas si vous permet de dire ça, mais c'est un autre sujet sur lequel on verra.
Est-ce que vous êtes déjà, monsieur Badou, est-ce que vous avez déjà visité une prison?
Ouais.
C'est vrai?
Bon, ben vous verrez. Je ne suis pas en train de vous mentir et je n'ai pas à vous répondre parce que les questions politiques vous sont adressées à vous, mais en l'occurrence, il m'est arrivé de visiter et plusieurs
d'ailleurs,
fois.
D'ailleurs, la garde des Sceaux m'avait répondu à une question précise que je lui avais posée où elle reconnaissait que la part de population carcérale était considérable.
Bon, mais c'est vraiment pas le sujet.
Oui, mais si, un peu quand même.
Non,
si.
Là, on parle du racisme.
Oui,
on parle des violences policières que vous dénonciez à l'époque du mouvement des Gilets jaunes. 2 ans après le mouvement des Gilets jaunes.
C'est pas de même nature.
C'est pas de même nature.
Que la hiérarchie policière. Que la hiérarchie politique, d'ailleurs, et utiliser la police contre les Gilets jaunes, c'est une réalité. Mais qu'on accuse des policiers dans l'exercice de leur mission de faire preuve de racisme, c'est une accusation insupportable. Et ce qui est encore plus insupportable, c'est de voir le ministre de l'Intérieur les lâcher.
Alors, d'un mot, juste avant de donner la parole à Solène de Royer, 2 ans après le mouvement des Gilets jaunes, il y a 399 enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN. Et il y a eu seulement 2 propositions de sanctions. Sur toute la période des Gilets jaunes, je referme la parenthèse sur la question du racisme dans la police. Il y a eu des travaux de journalistes et ceux de Street Press, par exemple, d'Arte Radio, de Mediapart, qui ont montré que, par exemple, il existait un groupe Facebook où 8000 gendarmes et policiers échangeaient des propos, des montages vidéo racistes. Donc le racisme existe.
Excusez-moi, mais vous trouvez que cette argumentation est recevable sur le plan scientifique, sur le plan juridique? Enfin, vous parlez d'un groupe WhatsApp
dont
des journalistes de Street Press se seraient fait l'écho. Et donc ça, c'est l'argument imparable pour dire qu'il y a du racisme dans la police. Honnêtement, c'est pas sérieux.
Alors attendez, le rapport, par exemple, de M. Toubon, le défenseur des droits, qui est sorti, je crois, cette semaine, qui nous explique clairement que dans le commissariat du 12e arrondissement de Paris, il y a des faits avérés de racisme,
si
d'insultes.
Ils doivent être sanctionnés. Mais ce qui est insupportable,
signifie juste qu'il y a effectivement du racisme, probablement. J'ai pas dit qu'il était institutionnalisé, mais il y a probablement du racisme dans la police.
S'il y a des faits ponctuels de racisme, ils doivent être sanctionnés. Parce que les lois de la République doivent s'appliquer et que, évidemment, la police doit être exemplaire.
Mais est-ce que le problème, c'est que cette police, est-ce qu'elle est suffisamment à l'image de la population française? Est-ce que le problème ne réside pas là? S'il n'y a pas un problème de recrutement dans la police en France?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on voit qu'il y a une diversité, y compris raciale dans la police, à tel point d'ailleurs que dans les manifestations l'autre jour, on a vu des policiers noirs qui se faisaient traiter de vendus par les manifestants.
Vous accusez les manifestants d'hier d'être racialistes et vous parlez de race vous-même, on a du mal à vous comprendre.
Non, je parle pas, je dis que quand vous avez des manifestants manifestement racialistes qui accusent un policier noir d'être un vendu au prétexte qu'il est aux côtés de la police et qu'il est dans la police, eh bien ça montre bien que eux sont dans une démarche authentiquement raciste.
Solène de Royer.
Donc la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a remis également un autre sujet sur la table, la question de la représentativité des personnes de couleur dans la vie publique, politique, économique et culturelle. Ces personnes, on le sait, sont sous-représentées. Le déplorez-vous, Nicolas Bay?
Moi, je crois, honnêtement, il faut qu'il y ait une égalité de droit en France pour les citoyens français. Voilà, il y a une égalité de dignité, il y a une égalité de droits et des devoirs d'ailleurs qui correspondent à ces droits. Voilà, qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de discrimination, j'y suis totalement favorable. Mais qu'on parte du postulat qu'il y aurait une discrimination, c'est honnêtement, c'est insupportable.
C'est pas un postulat.
Non, mais si on parle d'un postulat, parce qu'il n'est pas...
Ce sont des faits avérés par le défenseur des droits. Le défenseur des droits n'est pas un militant politique.
Il exprime une opinion, un ressenti, une perception. Honnêtement, ça fait partie du débat. Mais il y a...
C'est pas une opinion.
On n'a pas des données scientifiques qui établissent la moindre discrimination. Il y a la réalité. Mais vous savez...
Il faudrait des statistiques.
Bien sûr que si.
Excusez-moi, allons un peu au-delà. On nous dit, par exemple, il y a les contrôles aux faciès, les personnes de couleur seraient plus... comment dire, contrôler de manière aléatoire par la police que les autres. Mais en réalité, on ne prend en compte dans cette idée-là que la question raciale. Mais vous prenez une personne de couleur noire qui est en costume cravate dans les beaux quartiers de Paris, est-ce qu'il a réellement plus de chances d'être interpellé, d'être contrôlé par la police qu'un homme blanc en survêtement et en basket qui se trouve à Bondy au Aulnay-sous-Bois? Évidemment pas. Donc vous comprenez bien que...
C'est un drôle d'argument.
Donc la question raciale, réduire la question à la seule question raciale, c'est en réalité le logiciel de la gauche qui vise à culpabiliser les Français, et on a vu d'ailleurs tous les militants d'extrême-gauche, Mélenchon en tête, avec les manifestants hier, ce qui en dit long sur la manipulation aussi par l'extrême-gauche politique et associative de ces mouvements-là.
Juste un chiffre pour préciser, hein, selon le ministère de l'Intérieur, les faits racistes et xénophobes ont augmenté par exemple de 130% en 2019. Donc voilà, il y a des chiffres, des faits.
Eh bien, encore une fois, s'il y a des comportements individuels qui doivent être sanctionnés, ils le sont et ils devront l'être, c'est tout. Mais l'accusation générale contre la police, encore une fois, elle est odieuse. Les policiers font un travail difficile, dans des conditions difficiles, et aujourd'hui, les pouvoirs publics les lâchent, et c'est absolument inacceptable.
Généralisation absolue de la caméra piéton de manière à ce que une fois de plus, on ait des choses claires et nettes, c'est-à-dire qu'on ait des vidéos sur tout. Est-ce que vous y êtes favorable? C'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, elles ont été installées, elles sont à moitié défectueuses. Est-ce que vous êtes favorable à ça que tous
Oui, bien sûr. Si ça permet aux policiers de faire leur travail dans de bonnes conditions et de ne pas faire l'objet d'accusations fantaisistes. Vous comprenez, Christophe Castaner a dit quoi? Il a dit, les policiers, s'il y a un soupçon avéré de racisme...
On est revenu là-dessus.
Eh bien, ils seront mis à pied, ils seront suspendus. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aura une présomption de culpabilité. Le soupçon avéré, c'est un oxymore. Soit c'est un soupçon, soit c'est avéré. Ça peut pas être un soupçon avéré. Mais dire qu'en fait, la parole du délinquant, la parole de la racaille, a une valeur supérieure à celle du policier
de la racaille supposée, puisque si vous mettez en doute l'idée de soupçon avéré.
Mais dans le cas précis, c'est Christophe Castaner qui va finalement rompre avec le principe de la présomption d'innocence, de surcroît contre les policiers.
Mais est-ce que vous
Pour que les auditeurs comprennent, effectivement, Christophe Castaner a employé l'expression soupçon avéré. Tout le monde s'est rendu compte que ça voulait rien dire. C'était juste une formule impossible. Et en fin de journée, il a lui-même dit au syndicat de police que c'était une imbécilité, je le cite. Et il est revenu. Ah, moi j'ai imbécilité, vous avez une question de plus.
Le plus fort.
Donc il est revenu là-dessus en disant effectivement que ça n'avait pas de sens. Juste pour.
Mais on voit qu'il y a une volonté au-delà de désarmer la police. Regardez, il veut supprimer une technique d'interpellation. Elle est controversée. Que les techniques d'interpellation évolue, qu'elle soit comment dire, analysée et que
certaines soient dangereuses, trop dangereuses.
Voilà, exactement, ça peut être discuté. Mais qu'il annonce unilatéralement qu'on met fin à cette technique d'interpellation qui est en vigueur depuis des années et qui donc a dû aussi montrer son efficacité et qu'elle est remplacée par rien, eh bien, c'est une manière de fragiliser...
Elle n'est pas supprimée.
Les policiers encore plus.
Elle n'est pas supprimée, Nicolas Bay.
Il a dit que si.
Non, il a dit le matin qu'elle serait supprimée et l'après-midi qu'elle ne le serait pas.
D'accord, mais est-ce que c'est responsable de la part du ministre de l'Intérieur de passer
son temps
à dire quelque chose et son contraire dans la journée?
Mais c'est ce que disait Marine
pas
Le Pen.
Tout en même temps.
Mais tout ça installe progressivement l'idée qu'en gros, la police aurait des choses à se reprocher. Le fait que ça vienne du ministre de l'Intérieur est dramatique.
Mais les violences policières, souvenez-vous du mouvement des Gilets jaunes et de ce que vous disiez des méthodes d'intervention de la police et de la manière dont ils traitaient un certain nombre de manifestants. Pourquoi nier qu'il existe des violences policières aujourd'hui alors qu'il y a 2 ans, vous étiez parmi ceux qui les ont dénoncées le plus tôt? On n'aura peut-être pas de réponse.
Mais bien sûr que si, je vais vous répondre. En réalité, le problème, ce sont les ordres qui sont donnés aux policiers. Les policiers, ils obéissent à une hiérarchie.
Donc c'est encore question
de on a vu le préfet allemand, le préfet de police de Paris, mettre un zèle absolument extraordinaire à combattre les gilets jaunes, dont pourtant beaucoup étaient très pacifiques, à mettre aussi un zèle de cow-boy à aller traquer les automobilistes qui enfreindraient la règle des 100 km pendant le confinement ou qui voulaient se rendre dans la résidence secondaire. Mais par contre, lui qui est responsable de la sécurité publique sur le périmètre de l'Île-de-France, on le voit pas et on l'entend pas lorsqu'il s'agit de remettre de l'ordre dans les cités, dans les quartiers. Et il se fait très discret lorsqu'il y a des manifestations comme hier où les policiers sont lynchés, parce que c'est de ça dont il s'agit. Oui, il y a des policiers qui ont été lynchés hier. Je sais pas si vous avez vu les images.
Bien sûr, je n'ai pas vu de lynchage.
Frappés, y compris frappés à terre.
Un mot, Nicolas Bay. Il y avait hier des militants de Génération Identitaire qui étaient sur les toits d'un immeuble Place de la République et on a vu une banderole rapidement enlevée. Où il y avait ces mots « White lives matter ». Les vies des Blancs comptent. Réponse, comment est-ce que vous entendez cette phrase ?
J'ai vu surtout une banderole où il dénonçait finalement le caractère raciste anti-blanc de cette manifestation d'hier. Honnêtement, ils l'ont fait avec un certain panache, de manière très pacifique, hein, c'est un déploiement de banderoles, hein, ça fait partie du débat de la liberté d'expression.
Oui, c'est illégal, vous teniez absolument à ce qu'on respecte l'ordre, mais en l'occurrence,
oh mon Dieu, de déployer une banderole sur un toit, quelle entorse insupportable
non,
à
mais
la loi.
C'est pas la question, que vous inspire White Lives Matter comme slogan ?
Je l'ai pas vu du tout ce slogan.
Non, moi je l'ai vu et je vous dis qu'il existe.
Oui, honnêtement, il m'inspire rien et j'ai pas envie de faire de parallèle. Il faut combattre la démarche raciste qui caractérise ces manifestations.
Ce sont ceux de Génération Identitaire qui ont cette démarche-là. Non. Ils ont dit, mais
ont
si, face caméra, là voilà l'affiche, si vous voulez la regarder, elle est derrière votre écran. Justice pour les victimes du racisme anti-blanc.
Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est le seul slogan que j'ai vu.
Qui sont les victimes du racisme anti-blanc?
Tous les jours, il y a dans certains quartiers des personnes qui sont victimes du racisme anti-blanc dont on ne parle jamais. Vous lisez la presse quotidienne régionale peut-être.
Bien sûr, c'est mon travail.
Alors, je ne vais pas vous faire la longue liste.
Non, mais j'aimerais juste un exemple.
Il y en a absolument.
Un exemple, Nicolas Bay, je ne demande pas une liste.
J'ai pas en tête immédiatement un exemple. Il y en a tous les jours.
Il y en a tous les jours, mais vous ne pouvez pas citer un exemple.
C'est exactement comme les violences policières. On nous dit il y aurait des violences policières, mais ce qui est sûr, ce qui est avéré, c'est qu'il y a tous les jours des violences contre les policiers. Tous les jours. Alors qu'il y ait des violences policières, c'est possible, et ça les rend pas acceptables, mais commençons par nous attaquer à un phénomène qui aujourd'hui est massif. Dans certains quartiers, la police ne rentre pas. Pas seulement la police.
Les pompiers.
Mais un certain nombre de cités, enfin.
Mais non, mais donnez-nous un exemple.
Excusez-moi,
un seul,
monsieur Badou, mais je sais pas dans quel.
On est dans un pays de 65 millions d'habitants.
Je sais pas dans quel pays vous vivez, mais est-ce que vous avez vu, par exemple, pendant le confinement, que non seulement les policiers ne pouvaient pas aller dans certains quartiers, et que même la hiérarchie de la police leur a demandé de ne pas y aller, qu'il y a des pompiers qui ne pouvaient pas rentrer dans ces quartiers, que vous avez même des soignants qui se
mais
sont fait agresser.
Mais je vous demande juste de préciser quel quartier.
Dans les cités.
Non, mais c'est où les cités?
Mais il y en a partout. Mais il y en a partout en Île-de-France. Il y en a partout en Seine-Saint-Denis.
Mais vous êtes incapable de me citer un exemple.
Mais je vais pas vous donner un exemple précis puisque c'est un phénomène massif.
Non, mais donnez-moi un fait.
Ah bah écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé par exemple à Villeneuve-la-Garenne. Vous avez vu ce qui je sais pas dans quel monde vous vivez, excusez-moi hein, mais
il suffit
de lire la presse tous les jours pour se rendre compte qu'il y a
la presse tous les jours.
Bah, voilà, Nicolas Bay,
continuez de le faire parce que vous verrez qu'il y a malheureusement beaucoup d'actes contre les policiers dans les quartiers et beaucoup d'endroits où la police ne va plus. Mais vous savez quand Gérard Collomb a quitté la place Beauvau, il a reconnu qu'on était dans une situation dramatique. Il a dit qu'on va être demain face à face, qu'il y a des zones entières qui sont des zones de non-droit, où les lois de la République ne s'appliquent plus. Alors vous pouvez toujours le minimiser ou le nier.
Donc justement,
mais c'est une réalité qui n'a pas été exprimée seulement par l'Assemblée nationale, mais par le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron, lorsqu'il a démissionné.
Donc justement, comment calmer le jeu là? On va calmer sur le plateau le jeu aussi. Et donc comment calmer le jeu?
Enfin, c'est bien aussi d'avoir des débats enflammés. En l'occurrence, ce sont des questions. Nicolas Bay répond vigoureusement. Ses réponses lui appartiennent.
La tension, elle est en train de monter, clairement, dans notre pays. On voit beaucoup de jeunes qui participent à ces manifestations, c'était encore le cas hier. Est-ce que les politiques, les responsables politiques, ne redoutent pas un effet de contagion? Et donc, surtout, comment réussir à contenir tout ça, à faire en sorte que tout le monde reprenne le chemin de la vie ensemble?
D'abord, je crois que ces manifestations, elles sont le fait d'une minorité. 10 000 personnes, ça peut sembler non négligeable, mais enfin, dans un pays de 60 millions d'habitants, ça reste un phénomène très marginal. On a eu, ces dernières années, et souvent de manière très pacifique, des manifestations qui étaient d'une ampleur qui est sans commune mesure. Bon, ensuite, on dit que c'est des manifestations de jeunes. Non, c'est certains jeunes, sans doute. Beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas et s'identifient absolument pas à ces manifestants. On a vu aussi beaucoup de je parlais tout à l'heure de la gauche politique et associative. Honnêtement, beaucoup de militants gauchistes. On a même vu les vieilles associations des années 80, SOS Racisme, le MRAP, dont beaucoup de Français pensaient qu'ils avaient totalement disparu, qui réapparaissent.
Et puis c'est eux le danger.
Non, je dis pas ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ces gens-là
participent
de cette volonté de culpabilisation
Nicolas
des Français
Bay,
et se solidarisent avec les manifestants, comme d'ailleurs l'a fait Monsieur Mélenchon. Et honnêtement, moi, je trouve ça très grave. Jean-Luc Mélenchon, je trouve qu'il est en train de sombrer totalement. J'ai des désaccords politiques avec Jean-Luc Mélenchon, mais il avait une
certaine
capacité
à
défendre une ligne républicaine qui lui appartient.
Nicolas
Bay. Je ne partage pas en tout point, mais il le faisait avec une certaine tenue. Le fait d'avoir, il y a quelques mois, participé à des manifestations prétendument contre l'islamophobie aux côtés des islamistes, et maintenant prétendument contre le racisme, en réalité avec des gens qui sont authentiquement des racialistes et des
Nicolas
racistes.
Nicolas Bay,
je trouve que c'est...
Je vais vous poser une question toute simple. Le problème aujourd'hui, suite au mouvement mondial qui a suivi le meurtre raciste de George Floyd aux États-Unis, il y a eu des manifestations, on s'en est pris à des symboles en Grande-Bretagne, en Belgique, en France donc aussi, même en Corée du Sud. C'est quelque chose qui a résonné dans des peuples qui ont des histoires, des passés, des traditions très différentes. La question aujourd'hui, c'est la lutte contre le racisme ou est-ce que ce sont les associations antiracistes ?
Mais pour moi, il n'y a pas... Surtout en France, il y a des pays qui ont une histoire différente, hein. Mais il n'y a pas de racisme en France. La France n'est pas un pays raciste.
Il n'y a pas de racisme en France.
Mais il peut y avoir ponctuellement des gens qui se comportent mal et des gens qui agissent avec un sentiment, un esprit raciste. Ça peut exister, bien sûr, individuellement, mais il n'y a pas de racisme systémique. Et
le fait d'utiliser, il n'y a pas de racisme en France.
Le fait d'utiliser un événement qui a eu lieu encore une fois très loin, d'ailleurs aux États-Unis. Qui a une histoire différente, c'est des faits qui peuvent arriver de manière peut-être plus fréquente qu'en France, mais la réalité c'est que ça existe, des affaires comme celle de George Floyd, ça existe malheureusement, tous les jours partout dans le monde, et on n'en parle pas, et dans des pays qui sont infiniment moins qui respectent infiniment moins les droits que les États-Unis. N'oublions pas quand même qu'aux États-Unis, on est actuellement dans un contexte de campagne électorale.
Et que donc il faut garder... tuer des Noirs. Je comprends pas votre argument.
Pourquoi vous
parce que vous minimisez le meurtre d'un homme. Vous minimisez le meurtre raciste en disant c'est une vieille histoire.
Mais c'est extraordinaire. À quel moment je minimise ? Je suis en train de dire que c'est dramatique, mais que malheureusement il y en a partout dans le monde tous les jours.
Oui. Est-ce que ça empêche ?
Si vous allez des meurtres, que ce soit des racistes ou avec un autre motif, il y en a tous les jours et souvent dans des quantités beaucoup plus importantes, dans des régimes infiniment moins protecteur des droits que ne le sont quand même les États-Unis. Donc il faut aussi prendre un petit peu de recul. Mais pourquoi un événement dramatique, certes, qui a eu lieu à 6000 km d'ici, devrait être utilisé, mais par une toute petite minorité ? Enfin, c'est pas des manifestations de masse, c'est quelques militants gauchistes.
Bah alors qu'est-ce qui vous inquiète ?
Quelques jeunes qui descendent des banlieues.
Mais alors qu'est-ce qui vous inquiète, Nicolas Bay ?
Parce que je peux pas accepter qu'en France.
Vous ne pouvez pas dire qu'ils menacent la République s'ils sont très peu nombreux et que finalement c'est un épiphénomène qui mériterait pas qu'on s'attarde.
Mais parce que ils veulent culpabiliser les Français et malheureusement ils reçoivent un certain écho à la fois dans la classe
médiatique, c'est de la culpabilisation,
et dans la classe politique. Mais c'est pas demander la justice en l'occurrence, parce que ça c'est leur droit. Mais la justice, elle s'est déjà exprimée, elle a déjà dit qu'Adama Traoré n'avait pas fait l'objet de violences de la part des policiers. Et encore une fois, je vous rappelle, parce que c'est quand même très important, c'est le point de départ. Il n'a pas du tout été interpellé en raison de sa voix.
Je vous rappelle qu'un jeune homme est mort.
C'est un mensonge total.
Solène de Royer.
Non, très, très concrètement, Nicolas Bay, comment est-ce qu'on restaure le lien de confiance avec la police en France ?
Mais en défendant la police, en veillant évidemment à ce qu'elle soit exemplaire en contrepartie, et en lui donnant à nouveau les moyens, en la réarmant à tout point de vue. Le réarmement moral, le réarmement matériel, le réarmement en effectif. Marine Le Pen a présenté, vous le savez, il y a quelques jours, un plan assez complet avec une quarantaine de mesures, justement pour redonner à la police les moyens de mener sa mission de sécurité publique dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a une classe politique, et notamment le gouvernement, ce qui est quand même d'une extrême gravité, qui non seulement a placé la police dans une situation très difficile où elle ne peut pas assurer sa mission dans de bonnes conditions, mais qui de surcroît, à la première occasion, par connivence militante, idéologique avec la gauche, lâche les policiers. Voilà. Donc il faut sortir de ce schéma-là, il faut que la police ait des effectifs suffisants, qu'elle ait des armements suffisants, une formation aussi pour utiliser les matériels dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, on a des effectifs de police qui sont insuffisants. Nicolas Sarkozy en avait supprimé 13 000 postes. Ils ont pas ou très peu été reconstitué depuis par François Hollande et Emmanuel Macron, malgré leurs promesses. Il faut, quand on a un pays qui est aussi durement touché par la délinquance et la criminalité que l'est la France, les voyants sont rouges dans ce domaine-là, même si la période de confinement a temporairement atténué ce phénomène, eh bien, il y a une urgence à rétablir l'ensemble de la chaîne de la sanction, à donner des moyens à la police, à donner aussi des moyens à la justice et à faire en sorte que ceux qui commettent des délits ou des crimes soient interpellés, soient jugés, soient condamnés et qu'ils purgent leur peine. Aujourd'hui, et on l'a vu pendant le confinement, il y a des dizaines de milliers de prisonniers qui ont été sortis comme ça des prisons françaises. Aujourd'hui, la chaîne de la sanction ne fonctionne
des
plus.
Des dizaines de milliers
Oui, enfin une dizaine de milliers en tout cas.
Oui, enfin non pas une dizaine de milliers. Enfin vous venez de dire des dizaines de milliers, Nicolas.
Une dizaine de milliers.
Mais... Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la tribune de Jean-Marc Ayrault, puisque le vivre ensemble, c'est aussi une question de symbole, une question d'un rapport à son passé, tribune de Jean-Marc Ayrault qui est publiée dans Le Monde et où il appelle le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, ancien Premier ministre, à rebaptiser les salles de l'Assemblée nationale qui portent encore le nom de Colbert. Colbert qui était aussi l'auteur du Code Noir, qui a donc fixé le statut juridique des esclaves et pour des années. Et en l'occurrence, il considère qu'il faudrait aujourd'hui, non pas rebaptiser, non pas débaptiser, mais rebaptiser ces salles-là avec, pourquoi pas, des noms de grandes femmes de l'histoire de France. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, donc on va nier de notre histoire nationale, de notre roman national, des figures incontournables qui ont participé au rayonnement de la France sous prétexte qu'il y aurait une part d'ombre.
Le Code Noir, analyser, c'est pas une part d'ombre.
Bah, analyser avec nos critères d'aujourd'hui, une époque très ancienne. Est-ce que
avec nos critères d'aujourd'hui?
Oui, avec nos critères d'aujourd'hui, bien
vous
sûr.
Vous pensez qu'au XVIIe siècle, il y avait des gens qui étaient heureux d'être esclaves?
Je dis pas ça.
Et heureux
Je dis
d'avoir...
simplement que le regard que nous portons aujourd'hui sur l'esclavage n'est évidemment pas celui que la société portait à l'époque sur l'esclavage.
Non, mais je pense que les esclaves partageaient assez largement le point de vue de la condamnation de l'esclavage.
Alors, on va aller au bout de la logique. Il y en a qui réclament même qu'on supprime la statue de Victor Schœlcher à la Martinique au prétexte qu'il a été, certes, celui qui a aboli l'esclavage, mais qui en a été, pendant longtemps, l'a défendu ou en tout cas l'a accepté. Voilà. Donc, on va au bout de la logique de l'absurde, finalement. On essaye, finalement, de détruire, de culpabiliser les Français, non seulement pour ce qu'ils sont aujourd'hui, mais même pour leur histoire.
Mais sans dénier, est-ce qu'il ne faudrait pas relire quand même certaines pages de notre histoire?
On n'est pas responsable, ni dans collectivement, ni dans l'espace, c'est-à-dire ce qui se passe aux États-Unis, ni dans le temps, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a deux siècles, y compris, ou il y a trois siècles, ou il y a quatre siècles, y compris lorsque ce sont nos ancêtres qui ont fait des erreurs ou des fautes, et qu'il faut accepter dans notre histoire, à la fois les parts les plus glorieuses et aussi les parts les plus contestables, les plus controversées ou les parts d'ombre.
Voilà.
Et si on commence à disséquer l'histoire avec nos critères d'aujourd'hui,
il s'agit de
noircir l'image de notre pays,
l'action qui a mené dans le monde,
et bien à ce moment-là, ça aboutira à une espèce de sentiment collectif de culpabilité que certains, à mon avis, recherchent aujourd'hui pour nous fragiliser.
Indépendamment de la culpabilité, vous avez employé le terme tout à l'heure roman national. Certains disent récit national. Le roman, c'est peut-être une façon d'embellir les choses. Est-ce que vous considérez que tout ça relève de l'histoire et qu'il faut effectivement faire une espèce de nettoyage ou de regard nouveau en sachant exactement qui a fait quoi plutôt que de se raconter des belles histoires qui nous feraient plaisir? Mais sans pour autant déboulonner tout le monde. C'est la position du chef de l'État, c'est la position d'un certain nombre de leaders de droite. C'est de dire, on sait à qui on s'adresse, on sait de quoi on parle. Parce qu'autrement, c'est compliqué d'avoir... Donc roman national ou récit avec travail d'historien.
Mais
c'est
les historiens, ils ont toujours travaillé, c'est pas nouveau. En réalité, les historiens, ils ont toujours disséqué les actions des uns et des autres dans l'histoire en analysant les bonnes et les mauvaises.
Il y a une symbolique, Nicolas Bay. Il n'y a pas d'avenue Maréchal Pétain. Alors, il y en a une à Singapour, mais enfin, en France, il n'y en a pas. Vous savez très bien que nommer une rue avec le nom de quelqu'un ou mettre une statue, c'est une forme de révérence et pour qu'on n'oublie pas dans l'avenir. Donc, est-ce que vous pensez que votre théorie à vous, c'est le récit et non pas le roman?
Non, mais bien sûr, mais on peut dire l'un ou l'autre de ces termes. Mais il s'agit d'avoir un regard critique, bien sûr, sur notre histoire nationale, mais ça ne doit pas aboutir, encore une fois, à une culpabilisation collective. C'est-à-dire qu'on peut très bien...
Il ne s'agit pas de culpabiliser.
D'accord, mais on peut très bien avoir un regard éclairé, affiné, avec le travail des historiens qui est précieux dans ce domaine, et qui n'est pas nouveau, hein, sans pour autant dire, bah, puisque un tel a commis un certain nombre de mauvaises actions, bah, alors qu'il a participé à la grandeur, au rayonnement de la France, et bah, on va déboulonner la statue. Mmh. Voilà. Et donc, mais on voit bien que ceux qui recherchent ça, ceux qui voudraient déboulonner les statues et symboliquement couper les têtes aujourd'hui, sont ceux qui en réalité veulent exprimer finalement une espèce de remise en cause générale de ce que nous sommes, une contestation de la France, de son identité, de sa grandeur,
de son
rayonnement,
et culpabiliser
ainsi le peuple français aujourd'hui, encore une fois, j'insiste, pour des actions que nous n'avons pas commises, et ceux qui essayent de culpabiliser sont ceux qui ne les ont pas subies. Ils sont éventuellement peut-être des lointains descendants de ceux qui les auraient subies, mais eux, à titre personnel, ne les ont pas subies.
Ça n'empêche pas qu'on puisse avoir malgré tout une sensibilité à certains sujets. Juste un mot, c'était il y a exactement 190 ans, c'était le 14 juin 1830, les troupes françaises débarquaient en Algérie, c'était le début de la colonisation, et par exemple, il y a une avenue à Paris, dans le 16e arrondissement, l'avenue Bugeaud, qui commémore ou porte le nom d'un homme qui a enfermé des hommes, des femmes, des enfants dans des grottes, et avant d'y mettre le feu, il les a massacrés. Bon, ça a même scandalisé l'Europe et la presse de l'époque. Cette avenue, elle est à Paris, est-ce qu'il faudrait par exemple la débaptiser, l'avenue Bugeaud?
Vous comprenez bien que si on rentre dans ce schéma-là, eh bien, à ce moment-là, on va trouver dans toutes les actions des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire de France des choses qui sont critiquables et contestables. Et en réalité, on va débaptiser toutes les rues ou quasiment toutes les rues de France. On parle aujourd'hui, on dit toujours, on célèbre toujours la Révolution française comme l'avènement de la République et d'un régime démocratique, etc. La réalité, c'est que au moins dans les premières années, avec la Terreur, ça a été une succession d'abominations. D'abominations commises par Robespierre, pas commises dans Vendée par le général Thurot, etc., qui ont commis des exactions absolument immondes, inqualifiables. Bon, est-ce que pour autant on jette le discrédit total, complet sur la Révolution française? La réponse est non. On essaye d'avoir une analyse historique la plus affinée possible sur cette histoire-là. Eh bien, faisons-le sur l'ensemble de notre histoire nationale. Et puis encore une fois, on n'est pas obligé de reproduire ce qui aurait pu être des erreurs ou même des fautes dans le passé. Mais est-ce qu'il faut en permanence regarder notre passé avec un air coupable pour nous empêcher justement de nous tourner avec vigueur et avec...
Votre argument est curieux dans ces cas-là. Pourquoi pas des statues du maréchal Pétain sur les places des villages?
Les choses sont un peu différentes. Le maréchal Pétain a été condamné à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, à l'indignité nationale. Voilà, donc c'est un cas différent de ceux que vous évoquez.
Charles de Gaulle a été condamné à mort par contumace par le même Pétain.
Ah oui, donc vous reconnaissez la légitimité de l'État français?
Non, j'essaie juste de comprendre où
je vous signale quand même
qu'après
la guerre, un certain nombre d'actes du gouvernement de Vichy ont été considérés comme nuls et non avenus. Enfin, je ne veux pas revenir
sur de
sujet. Débat historique.
Du coup,
Karine,
que doit dire
avant
Emmanuel Macron, que doit dire Emmanuel Macron ce soir pour, d'un côté, réussir à garder la confiance des policiers, si je vous entends bien, et en même temps, d'un autre côté, réussir à calmer la colère qui est en train de s'installer dans notre pays?
Je crois que la première chose qu'il doit faire, c'est de limoger son ministre de l'Intérieur.
Ça fait à peu près 10 fois
Castaner,
que vous devez le demander,
non, mais
je pense.
Mais Christophe Castaner, on le savait depuis le début, avait peut-être pas tout à fait les épaules pour être le ministre de l'Intérieur. On voit qu'il se révèle totalement défaillant. Aujourd'hui, on a une situation de crise. Ceux qui sont chargés de l'ordre public en France ne supportent plus leur ministre de tutelle qui s'est très mal comporté à leur égard. Donc la première décision que doit prendre Emmanuel Macron, s'il veut assurer l'ordre et la loi dans notre pays, eh bien c'est de commencer par remplacer son ministre de l'Intérieur. Bon, ensuite qu'on donne les moyens à la police de faire son travail dans de bonnes conditions, je l'évoquais tout à l'heure, et surtout qu'on n'aboutisse pas dans le discours médiatique et dans le discours des responsables politiques, ceux qui sont au gouvernement, à légitimer la remise en cause de la loi, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand on dit le sentiment collectif l'emporte sur la loi, c'était les propos de Christophe Castaner, c'est la définition même de la révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ordre est balayé, les lois, et donc les lois de la République en l'occurrence, sont balayées simplement parce qu'il y a une petite minorité agissante, une foule qui peut être éventuellement haineuse ou hargneuse, qui s'exprime. Voilà. Donc le rôle du président de la République, garant de l'unité nationale, eh bien, c'est de mettre fin à cette dérive.
Solène de Royer, rapidement.
Est-ce qu'Emmanuel Macron doit démissionner, comme l'avait fait en Grèce par exemple Alexis Tsipras, pour retrouver une légitimité après cette crise sanitaire inédite?
Écoutez, je sais que apparemment il y a quelques échos de presse qui disent qu'il envisagerait cette hypothèse. Ça aurait évidemment un côté un petit peu gaullien. Moi, je crois qu'il faut essayer d'aller au fond des sujets. Emmanuel Macron reconnaît lui-même qu'il doit se réinventer. Bon, mais ça doit pas être simplement des mots. Ça doit être des actes. Et en réalité, le problème, c'est quand il dit ça, c'est un terrible aveu d'échec. Parce que la crise sanitaire a révélé la vulnérabilité de la France, avec peu d'anticipation, peu de capacité industrielle, la dépendance à l'égard de la Chine, etc. Or, tout ce modèle mondialiste qui a été savamment construit et dont Emmanuel Macron est un peu l'incarnation et la synthèse, eh bien, aujourd'hui, il est remis en cause. Donc, c'est Emmanuel Macron lui-même, pas en tant que personne, mais en tant que responsable politique dans son projet politique, qui est remis en cause. Il peut pas dire simplement, je vais me remettre en question, il faut réindustrialiser. Il faut passer aux actes. Et donc remettre en cause la logique du libre-échange mondialisé. Remettre en cause l'ouverture totale des frontières, la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes, qui aujourd'hui a placé la France dans la situation dramatique dans laquelle elle est, ou en tout cas a aggravé la situation sanitaire.
L'eurodéputé Rassemblement National, Nicolas Bay, est l'invité de Questions Politiques ce dimanche.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Votre portrait, Nicolas Bay, signé Karine Bécard.
Vous n'avez jamais cessé de militer, Nicolas Bay. Vous êtes ce que l'on pourrait appeler un militant né. Vous avez commencé à défendre les idées du FN à 15 ans seulement. Subjugué par les propos, par la prestance, par l'insolence de Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui encore, 27 ans après, vous apparaissez comme un bon petit soldat indéfectiblement loyal au Rassemblement National. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Retour sur un classique de votre parcours politique.
Moi, je me sens rien de commun non plus, d'ailleurs, je m'empresse de le préciser, avec la fille de M. Le Pen, qui est un peu le Tanguy de la politique régionale. À 36 ans, elle habite dans le château de son père à Saint-Cloud, elle est payée par son père au siège du FN, et son mari est payé également par son beau-père.
À l'époque, Nicolas Bay, vous aviez 26 ans, vous aviez surtout changé de mouvement pour le MNR, dirigé d'une main de fer par Bruno Maigret, ancien bras droit de Jean-Marie Le Pen, qui vous semblait plus décidé, plus structuré pour décrocher le pouvoir. La preuve peut-être de votre duplicité, en réalité, on en reparlera. En tout cas, au MNR, vous n'y resterez pas. Retour au bercail, c'est-à-dire au Front National, à l'écoute et aux ordres de votre nouvelle patronne.
Notre objectif a toujours été de dépasser le record historique de présence du Front National au municipal, c'est-à-dire 500 listes. Et j'espère que nous allons réussir cet objectif.
Février 2014, sur ces images, à côté de Marine Le Pen, vous avez l'air tellement lisse et tellement sage. Ce qui ne vous a pas empêché, Nicolas Bay, d'avancer. Le conseiller régional de Normandie va devenir le secrétaire général du parti. Vous serez pendant 3 ans aux avant-postes et dans l'organisation de toutes les élections. Et puis la relation de confiance s'est abîmée, probablement parce qu'une nouvelle fois, vous avez préféré regarder dans une autre direction, celle de Marion.
Je ne cherche pas à être une figure d'incarnation, vraiment pas, et je l'ai dit pour 2022, je n'ai pas du tout d'ambition personnelle, mais je l'ai toujours dit, chaque fois que je pense pouvoir être utile, que je pense pouvoir agir, que je pense pouvoir contribuer, j'essaye de le faire.
Avec Marion Maréchal, vous semblez partager les mêmes obsessions sur la famille, notamment, et bien sûr sur l'immigration. Donc à 42 ans, Nicolas Bay, vous êtes toujours eurodéputé, vous travaillez tranquillement sur vos dossiers, vous ne faites rien pour vous faire remarquer, en réalité vous donnez surtout l'impression de patienter.
Réaction, Nicolas Bay.
Bon, écoutez, il y a beaucoup d'extrapolations et de conjectures dans ce portrait. Vous faites un peu d'archéologie politique aussi. Ça me fait toujours sourire de voir ces images un peu anciennes maintenant quand même, d'une période où notre famille politique était divisée. Mais pour aller un peu répondre sur le fond, vous savez, moi je suis bien au Rassemblement National. Je suis dans l'instance dirigeante du mouvement, le bureau exécutif. Je suis occupé dans mes fonctions aussi au Parlement européen. Nous avons un groupe très important de 76 députés.
C'est le quatrième groupe au Parlement européen depuis le Brexit.
Avec 76 députés de 10 nationalités différentes, donc cette Europe des nations, des protections, eh bien on essaye de la construire au quotidien. Et je crois qu'il faut, pour revenir à votre dernier propos, il faut pas exagérer les différences de sensibilité, les nuances qui peuvent exister entre les uns et les autres, entre les personnalités. Je crois qu'il n'y a pas un choix à faire entre un tel ou un tel. Marine Le Pen est aujourd'hui la présidente du Rassemblement National. Elle se prépare, elle est la seule opposante véritable à Emmanuel Macron. On peut dire que les autres forces politiques sont très affaiblies. Elles se préparent à l'élection présidentielle. Je suis évidemment à ses côtés. Et ça m'empêche pas, évidemment, d'avoir aussi, parfois, une convergence de vues avec tel ou tel, comme Marion, qui a quitté la vie politique, mais reste dans le débat intellectuel, dans le débat de philosophie politique.
Alors, pour être dans l'actualité, juste une question rapide. Enfin, très, réponse précise. Est-ce qu'on en a trop fait sur le confinement au risque d'être confronté à une catastrophe économique? Première question. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que vous allez voter contre les crédits européens qui sont des dons? Ce ne sont donc pas simplement des choses qu'on doit récupérer après.
Si c'était des dons, ce serait merveilleux.
Attendez, les 750 milliards, on ne va pas demander un remboursement après, ce ne sont pas des prêts. Pourquoi, alors que ça va aider toute la France et tout le pays à repartir? Confinement, trop ou trop peu, allez-y.
Alors, deux choses. D'abord sur le confinement. Les Français ont été irréprochables, ils fait preuve de beaucoup de sens des responsabilités, de civisme. Le confinement s'est passé dans de moins bonnes conditions en France qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que on n'a pas voulu protéger nos frontières avant. Les pays comme l'Autriche qui ont protégé leurs frontières ont pu se déconfiner plus vite et dans de meilleures conditions. On n'a pas anticipé sur les tests et sur les masques. Le gouvernement nous disait les masques ne servent à rien. Ça fait aujourd'hui sourire d'entendre ça, simplement parce qu'ils étaient incapables d'en fournir. Et les tests, ils disaient ça sert à rien parce qu'ils étaient également incapables d'en fournir. Donc il y a eu un certain nombre de défaillances. Donc le confinement a été rendu nécessaire pour essayer d'atténuer la gravité de cette crise sanitaire.
Un pays exemplaire, c'est quoi par exemple en termes de politique sanitaire ? Quel est le pays qui, selon vous, en Europe, a fait des choses bien ?
Je citais par exemple le cas de l'Autriche, qui a plutôt mieux géré cette période. Ils ont.
C'est un pays qui était beaucoup moins touché que nous, quand même. Hein.
Puis c'est plus petit. Hein.
Ils ont été touchés
quelques
un petit peu plus tard.
Morts,
ils n'ont pas été moins touchés proportionnellement, mais. Ils se sont affranchis des dictats de la Commission européenne. Ils ont dit, nous, on ferme immédiatement notre frontière avec l'Italie. Rendez-vous compte quand même que
ça
la France...
Ça dépend pas de la Commission européenne, en l'occurrence, la fermeture des frontières.
Non, bien sûr, mais la Commission européenne a exprimé par la voix de Mme von der Leyen la nécessité de ne pas fermer les frontières.
Et donc, mais chacun des pays devait décider.
Mais chaque pays, en effet, vous avez raison de le dire, c'est pour ça que l'Autriche a immédiatement fermé ses frontières. Rendez-vous compte quand même que la France, en France, on interdisait aux Français de faire à plus d'un kilomètre quand ils faisaient leur jogging, et ensuite, dans la deuxième phase, de faire 100 kilomètres et d'aller dans le département voisin. Mais dans le même temps, on avait des frontières grandes ouvertes avec la Belgique, l'Italie et l'Espagne, qui étaient les trois pays en Europe et peut-être même au monde les plus durement touchés par le Covid. Donc, on voit bien qu'il y a eu quand même des grands manques, des carences, des lacunes majeures dans la manière dont le gouvernement Emmanuel Macron ont géré cette crise sanitaire. Et maintenant, sur l'aspect économique, soyons clairs, le plan de relance économique européen, les chiffres sont vertigineux. Ouais. En tout, c'est 2200 milliards, dont la tranche de 750 milliards que vous évoquez. Mais il s'agit pour une part de la création monétaire par la BCE, pour une autre part des emprunts sur les marchés financiers qui sont effectués par la Commission européenne. Mais qui va payer à la fin ?
Il y a neuf. Mais attendez,
il y a neuf.
Vous avez vu les délais de qui va payer à la fin ? Est-ce qu'on ne croyait pas qu'il faut aider le...
Qu'il y ait un prêt qui soit sur 20 ou 30 ans, c'est une chose. Mais ça va venir alourdir notre dette. On était déjà dans une situation très critique avant, puisque avant la crise sanitaire, on avait déjà dépassé les 100% du PIB en dette publique de la France. Aujourd'hui, en Europe, sur les 27 pays, parce que 2200 milliards, ça paraît un chiffre spectaculaire, mais il faut quand même le rapporter, c'est à l'échelle continentale, sur 27 pays. On est 9 pays contributeurs nets, dont la France n'est pas des moindres. Donc, évidemment, comme toujours, on va toucher une partie de cet argent, c'est vrai, mais à la fin, on payera beaucoup plus qu'on ne touche, et il y a d'autres pays qui, eux, toucheront plus qu'ils ne payent.
Donc, rien n'a été bien fait. Donc, vous, par exemple, vous auriez proposé quoi ? Vous auriez géré ça comment ?
Honnêtement, quelle est la plus-value à organiser les choses à l'échelle européenne lorsque finalement, ça aboutit finalement à avoir moins d'argent que ce qu'on va devoir payer ou ce qu'on a déjà payé, et de surcroît que l'usage de cet argent, au lieu d'être contrôlé par le gouvernement français en fonction des intérêts nationaux, il est décidé par la Commission européenne. Parce que c'est ça l'enjeu.
Attendez, il y a des dossiers qui sont instruits par les pays, des dossiers qui sont instruits à la demande, y compris de certaines régions, de certaines entreprises, et en fonction de l'instruction de ce dossier, l'argent est ou non débloqué avec des contrôles après. Donc c'est quand même aussi bien que
c'est exactement ce que je vous dis.
Mais quel est le problème ?
Mais le fait que la France donc ne puisse pas disposer librement à sa quote-part, et que ce soit sous contrôle de la Commission européenne, est-ce que vous croyez que c'est un avantage ? Est-ce que vous croyez que le gouvernement français est pas le mieux placé pour savoir où cet argent doit être utilisé plutôt que les commissaires européens à Bruxelles ?
Bon, mais la France, en l'occurrence, a quand même déjà,
a
déjà débloqué 460 milliards d'euros. C'est son plan. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez concrètement proposé? Écoutez,
on a fait, Marine Le Pen l'a exprimé dès le début, assez tôt, dès le début de la crise. On a fait un certain nombre de propositions. Il faut notamment l'annulation des dettes sociales et fiscales des petites entreprises, parce que ce sera la condition pour qu'elles survivent. Les simples reports, par exemple, des charges fiscales et sociales ne sont pas suffisants. Et puis, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette très importants dans ce que met en œuvre aujourd'hui le gouvernement. Je vais prendre l'exemple de l'industrie automobile. On va verser des milliards d'euros qui sortent de l'argent du contribuable français. Et on a dans le même temps Renault qui nous dit « je vais empocher l'argent, mais je vais continuer à délocaliser, je ne vais pas maintenir mes sites ». Et on a Peugeot qui dit « je vais faire appel à une main-d'œuvre de travailleurs détachés qui viennent de Pologne ».
Oui, mais on se rend compte que quand le gouvernement met la pression, pour le coup, Renault et Peugeot,
oui, malgré tout... Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'ils annulent aujourd'hui pour le refaire dans 15 jours. Ça montre leur démarche. Et ça pose le problème du travail détaché. On a 1 million de chômeurs supplémentaires sur les 2 derniers mois. Ça nécessite de mettre en œuvre la priorité nationale. Le travail détaché, c'est 520 000 personnes qui viennent avec un coût pour les entreprises plus faible parce que les charges sociales sont payées dans le pays d'origine. Ça aboutit à une véritable préférence étrangère sur notre sol. Donc il faut, comme nous le demandons depuis longtemps, abroger la directive détachement des travailleurs, qui est une véritable délocalisation à domicile. Vous avez des entreprises qui délocalisent, et ce qu'elles peuvent pas délocaliser, elles font venir du travail détaché. Tout ça, ça aboutit à augmenter encore davantage un chômage qui est devenu dramatique. Mais on connaît
votre position sur le sujet, Solène de Royer.
Dans toutes les familles politiques, la doxa du moment depuis cette crise, c'est de réclamer plus de services publics et plus d'État. Est-ce qu'on en a les moyens, d'abord, et faut-il augmenter les impôts? Et sinon, qui paiera?
Et rétablir l'ISF.
En réalité, il faut que l'État assume ses missions régaliennes, qu'il soit en soutien à l'économie, qu'il ne se désintéresse pas, qu'il soit capable de protéger notre économie. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la nécessité de sortir du modèle de libre-échange mondialisé. Parce que on ne peut pas, d'un côté, mettre de l'argent dans les entreprises pour les aider économiquement, et ensuite les livrer à une concurrence déloyale de pays qui ne respectent ni nos normes sociales, ni nos normes sanitaires, ni nos normes environnementales. Parce que les entreprises, à ce moment-là, elles vont être à nouveau en difficulté dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Donc c'est en gros, en fait, une remise en cause très profonde du modèle actuel. Et je ne crois pas du tout que le gouvernement y soit prêt. Aujourd'hui, on colmate les brèches avec l'argent public, l'argent qui vient des impôts. Il faut baisser la fiscalité. Et pour moi, il y a 2 conditions à réunir pour relancer notre économie. C'est 1. Faire en sorte que nos entreprises puissent être compétitives avec une baisse des charges de la fiscalité qui pèse sur elles, parce que aujourd'hui on a atteint un niveau confiscatoire en France, 47% de notre PIB en prélèvement obligatoire, ce qui fait de la France un des pays les plus imposés, les plus taxés de tous les pays de l'OCDE. Et 2e condition, être capable de nous protéger, c'est-à-dire mettre des droits de douane, des quotas, des contingents. Je pense que font tous les pays du monde. Les États-Unis sont capables à la fois d'avoir une économie libérée avec une fiscalité faible et en même temps de mettre des protections douanières quand c'est nécessaire pour éviter la concurrence
sur l'ISF, déloyale. Juste une réponse, vous pensez
rapide.
Que oui ou non, c'est une bonne idée?
Écoutez, l'ISF, on sait que c'est pas forcément un impôt qui est très efficace. Ce qui a été scandaleux, c'est de transformer l'ISF en IFI, c'est-à-dire de taxer très durement la propriété immobilière,
oui,
ce qui contribue à ce qui est notre patrimoine national et ce qui est enraciné. Et puis par contre, vous avez un yacht, vous avez des biens de luxe, là vous n'êtes plus taxé du tout. Donc ça, on a aggravé encore l'injustice.
Donc
il faut sortir de ce modèle-là. Mais l'essentiel, c'est de globalement baisser la fiscalité en France. Bon. C'est indispensable à la fois sur nos entreprises pour qu'elles soient compétitives
et
sur les ménages
pour le pouvoir d'achat. La question des municipales posée rapidement par Karine Bécard.
Premier tour des élections municipales, assez dur, je trouve, il me semble, pour les candidats du Rassemblement national. La moitié seulement a passé le cap des 10%, donc va pouvoir se maintenir pour le second tour qui se joue le 28 juin prochain. Il y a 6 ans, 85% de vos candidats avaient réussi à se maintenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez?
Il y a une crise sanitaire. Nicolas Et vous avez eu le Premier ministre de la France qui, la veille ou l'avant-veille du premier tour, dit aux Français, il faut rester chez vous. Voilà. Et donc, évidemment.
Et donc, tous les électeurs du Front National.
Je dis pas ça, je dis simplement que, sans doute que nous avons, vous le savez, ça a été 100 fois analysé, un électorat populaire, et nous en sommes fiers d'ailleurs, mais peut-être qu'il se sent plus vulnérable et peut-être qu'il s'est proportionnellement moins bien mobilisé pour ces élections municipales. Et donc, je pense que c'est ce qui explique des résultats qui étaient décevants,
encore
que, il y a beaucoup d'endroits, notamment les endroits où on avait des perspectives de succès, où nous avons obtenu de très bons résultats et où nous pouvons gagner des villes, d'ailleurs, le 28 juin. Mais moi, ce que je voudrais dire aux Français pour ces élections municipales, c'est que le fait que un certain nombre de maires, dans des opérations de communication et de campagne électorale, pour tout dire, aient distribué des masques pendant 2 mois, et ils avaient raison de le faire, mais en même temps, c'était rien que très normal, ça doit pas faire oublier un bilan de 6 ans qui est souvent mauvais. Et donc, c'est sur leur bilan, souvent du gaspillage, souvent la hausse des impôts, souvent de l'insécurité, souvent du communautarisme ou du clientélisme, qui doivent être jugés. Et les Français ont l'occasion de voter, c'est la première fois depuis la crise sanitaire, le 28 juin, donc c'est le déconfinement de la démocratie, il faut aller voter, il faut vous faire entendre. Il y a 5000 communes qui n'ont pas encore choisi leurs équipes municipales. Il y a beaucoup de maires socialistes, macronistes ou républicains qui méritent d'être sanctionnés dans les urnes. Et donc l'heure est à la mobilisation. Et je crois que nous pouvons gagner dans un certain nombre de communes, comme par exemple Louis Alliot à Perpignan.
Solène Droyer, rapidement.
Alors, Marine Le Pen a soutenu Rachida Dati, candidate LR à Paris. C'est très rare qu'elle ne renvoie pas droite et gauche dos à dos. Pourquoi ce changement de stratégie ?
Nicolas Bay.
Écoutez, parce que ça correspond à une situation spécifique à Paris. On peut être très critique sur les Républicains, qui sont souvent très interchangeables avec les socialistes ou avec les macronistes, mais faire le constat qu'à Paris, Anne Hidalgo a mené une politique qui a été absolument catastrophique, avec des conséquences très lourdes, notamment sur le plan économique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la propreté. Et donc, voilà. Aujourd'hui, il faut voter au second tour, puisque le Rassemblement national n'y est pas présent, contre Hidalgo, c'est-à-dire pour Rachida Dati, qui est celle qui est la plus en capacité de l'emporter.
Jeudi prochain, nous commémorerons donc les 80 ans de l'appel du 18 juin. Qu'est-ce que cette date représente pour vous, Nicolas Bay, et est-ce que vous vous dites gaulliste ?
C'est une date importante parce que c'est la capacité à refuser le déclin et le fatalisme. Le général de Gaulle, au nom de la France, s'est levé et a exprimé le 18 juin 1940 la volonté de ne pas avoir une France durablement neutralisée, occupée, et une France qui se relève. Et donc c'est évidemment une date très importante. Je ne me dirais pas gaulliste, parce que d'abord ça n'a pas beaucoup de sens en 2020 de se dire gaulliste. En revanche, je pense que nous avons une vision gaullienne sur un certain nombre d'aspects. Je pense à l'indépendance nationale, à la nécessité de préserver nos capacités industrielles.
Mais vous reconnaissez que la tradition ou l'histoire de votre parti, celui auquel vous avez adhéré très jeune, le Front National, est très très loin du gaullisme?
Non, mais vous savez, vous prenez à l'UDF, par exemple, vous aviez tout un tas de gens qui étaient plutôt proches de l'Algérie française aussi.
Enfin, ça fait partie des pages assez anciennes de l'histoire. Des membres fondateurs du Front National, il y avait d'anciens Waffen-SS, il y a des gens qui ont été des auxiliaires de la Gestapo, qui ont participé à la rafle des enfants du Veldiv.
Soyons quand même prudents dans ce genre d'accusations.
Vous en aviez
aussi dans l'entourage immédiat de François Mitterrand. Voilà, ça fait partie de l'histoire de notre pays. Honnêtement, c'est quand même de l'histoire très ancienne.
Très ancienne?
Bah oui. Très ancienne, oui. C'est il y a 50 ans quand même. On parle de la fondation du Front National il y a une cinquantaine d'années. Il y a 48 ans
exactement.
Pour être précis, bon, on est quand même très loin des enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que nous défendons, l'indépendance de la nation, la nécessité d'une Europe des nations, un équilibre entre un État qui assume ses missions économiques, mais qui libère l'économie avec une fiscalité raisonnable, la nécessité d'avoir secteurs clés, notamment
en matière d'énergie. On faisait partie encore du Rassemblement National, enfin du Front National à l'époque. Régulièrement, il demandait à Marine Le Pen, d'aller sur la tombe, de fleurir la tombe du général de Gaulle, de rendre hommage au général de Gaulle. C'était jamais possible. Et puis là, tout à coup, cette année, elle va rendre hommage au général de Gaulle. Expliquez-nous pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait au Front National ?
Non, je ne crois pas d'ailleurs qu'il ait fait le siège à l'époque de Marine Le Pen pour qu'elle aille spécialement à Colombey des Églises. Mais il ne s'agit pas de vouer un culte individuel à un homme, et c'est peut-être un peu l'esprit de ceux qui vont à Colombey des Églises, même si moi je respecte tout à fait ça. Aller à l'île de Saint, ça a une autre symbolique. Ce sont, vous le savez, les hommes de la totalité de la population de cette petite île du Finistère qui sont allés rejoindre en bateau le général de Gaulle à Londres.
L'émission se termine. Merci Nicolas Bay d'avoir participé à l'émission et d'avoir accepté de débattre, d'avoir même eu des tons qui rendaient l'émission vivante et intéressante. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci à toutes les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à Alexandre Gilardi qui a préparé l'émission ainsi qu'à toute l'équipe technique de Questions Politiques. À dimanche prochain.